L'esprit critique. Mediapart.
Deux grands hommes ennemis est le deuxième roman de Diadier Dembélé, né dans l'Est du Mali et diplômé du master de création littéraire de l'université Paris 8, comme un certain nombre des voix récentes de la littérature contemporaine. Publié aux éditions Jean-Claude Lattès, le roman puise dans le pays d'origine de Diadier Dembélé, mais aussi dans l'expérience de l'auteur en tant qu'interprète au sein d'une association d'aide aux migrants. Le livre raconte l'itinéraire d'un village du Mali jusqu'à Bamako puis Paris de deux amis, Mantia et Toko, racontés à travers le récit du premier livré face à la justice. Puisque monsieur le juge veut savoir pourquoi j'ai quitté mon village et pourquoi j'ai choisi la France, écrivez, intime en effet le narrateur. Alors le dispositif choisi est très singulier puisque c'est Mantia qui raconte son histoire et celle de son ami depuis le centre de rétention de Vincennes en se confiant à un juge grâce à un traducteur et en espérant obtenir des papiers. Mais le traducteur l'interrompt souvent, le livre est largement adressé à ce monsieur dont on ne sait toujours s'il cherche à affiner la traduction des propos ou au contraire à imposer un certain type de discours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dispositif très particulier, Blandine Rinkel ?
Bah, je l'ai trouvé intéressant parce que vous dites que le traducteur l'interrompt souvent, mais en fait, cette interruption, on ne l'entend jamais. On entend quelqu'un qui s'appelle Mantia qui va jusqu'au bout de sa parole. Et j'ai eu la sensation, en lisant, de lire le monologue de quelqu'un à qui on a, de manière générale, trop coupé la parole. Et donc, c'est un monologue qui, parfois, est un peu logoréique, mais comme s'il était écrit d'un souffle pour tout dire, pour toucher à l'os de la parole, comme il l'écrit, avant d'être interrompu. Et la littérature comme lieu où celles et ceux qui sont habitués à se faire couper la parole peuvent enfin finir leur phrase, c'est quelque chose qui me parle et me touche. Et il y a d'ailleurs une scène assez saisissante où il rencontre une femme sans papier qui, elle aussi, d'avoir soudain un auditeur en la personne de Mantia, se met à parler fiévreusement avec un monologue qui pourrait durer des heures et voilà, qui n'en finit pas. Et donc à cette peur d'être coupée se joint une défiance envers le destinataire du monologue, envers aussi le lecteur, envers le traducteur qui écoute le monologue de Mantia, mais aussi envers le lecteur. Et il y a une insolence, une manière de toiser ce lecteur qui n'a rien à voir avec le surplomb ou la condescendance qu'on peut trouver dans certains romans coup de poing des classes aisées qu'on a chroniqué, dont on a parlé ces dernières années. Là, c'est une défiance, une ironie et même un humour qui ne surplombe jamais rien, mais qui sauve sa dignité et très concrètement qui sauve sa peau et qui s'adresse aussi à lui-même, pour finir sur ce dispositif. C'est-à-dire que je crois que Diadé Dembélé, à travers la manière dont Mantia parle à son traducteur potentiel, s'adresse à lui-même et fait son propre procès, en fait, à travers les piques envoyées par son narrateur au traducteur. C'est aussi lui, Diadé Dembélé, qui sait qu'il se traduit, qu'il sait qu'il parle pour d'autres personnes. Donc il est à la fois l'émetteur et le traducteur. Et c'est une manière de dire, est-ce que en fait, vraiment les compatriotes, il en parle comme ça à la fin, les compatriotes de Diadé Dembélé ont besoin de lui, qui nage dans la langue française avec une aisance totale, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui pour les défendre? Sans doute, et en même temps, sans doute que pas. Et tout repose voilà, sur cette ironie.
Lise Vajan, sur ce dispositif, et sur le fait qu'effectivement, il y a quand même un monsieur auquel est adressé le texte, mais un tu auquel il est adressé, donc on peut se dire que c'est n'importe quel lecteur, et effectivement, c'est sans doute des fois le narrateur lui-même qui s'interpelle. Donc vraiment, là, on est sur un dispositif littéraire très particulier. Qu'est-ce que ça a produit pour vous ?
Comme Blandine, moi, j'ai été très touchée, en fait, par ces apostrophes, ce monsieur qui rythme le récit. En fait, ça m'a rappelé un livre qui n'a rien à voir, qui est Léonce de Pierre Michon, qui est aussi marqué par cette interpellation par ce monsieur, et qui a produit un effet très émouvant. Ça peut sembler mineur, mais en fait, ça traduit quelque chose de l'ensemble du texte, c'est-à-dire c'est à la fois extrêmement solennel, hein, c'est pas interpeller quelqu'un par son nom, c'est à la fois une supplication, une demande, et en même temps, c'est une semence, c'est une exigence. Et donc, parce que derrière, enfin, c'est ce que Blandine disait, derrière l'interprète, il y a l'écrivain, mais il y a nous aussi, les lectrices. Et on est à la fois séduit, on est à la fois prié, et on est à la fois sommé. Et c'est extrêmement touchant. Après, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la composition du roman, en fait, se nourrit de documents, au premier titre desquels, la photo sur le bandeau de couverture, qui est l'exhibition du procédé de composition du roman. Donc, un double portrait dû à un photographe malien des années 50-60, qui s'appelait Abdourahmane Sakali. Et donc, on a un cliché qui montre deux personnages avec des accessoires, Catherine Mazurek, dans En attendant un ado, dit qu'il y a d'autres photos de ces mêmes deux amis, mais qui se sont répartis autrement les accessoires. Ça aurait fait une autre fiction. Donc on a un matériau qui nous est montré dès la photo de couverture et qui, après, se nourrit aussi, bien sûr, des expériences de Diadie Dembélé comme interprète. Mais il y a cette espèce de, comme ça, de dispositif qui s'affiche globalement et qui fonctionne très bien.
Même question, Younès Boussena, avec la question un peu qui est derrière, c'est que on a tellement entendu d'histoires comme ça, est-ce qu'il arrive par ce dispositif singulier à déjouer les discours soit lénifiants, soit agressifs sur l'immigration qui saturent une bonne partie du champ social et médiatique?
En effet, je crois que Diadie Mbélé reprend des thèmes très classiques de la littérature africaine francophone depuis les années 50-60, c'est-à-dire l'exil, le rapport à la France à travers sa langue. Et je trouve que c'est là où justement il est assez fort, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une généalogie littéraire qui est aujourd'hui assez classique, mais il y apporte quelque chose et une voix qui est très actuelle, très contemporaine. Moi, je le suis depuis son premier roman, qui est Le duel des grands-mères, que j'avais chroniqué, donc c'était en 2022. Et je trouvais qu'il y avait plein de choses positives, mais il y avait certains axes que j'aurais, qui étaient peut-être un peu sages encore ou qui peut-être pouvaient aller encore plus loin. Et je trouve que ce livre-là, on dit souvent que c'est le deuxième roman le plus difficile parce que le premier, on a dit un truc essentiel. Et puis, quand on a été repéré, il y a une forme d'attente. Et je trouve que non seulement il réussit son pari, mais que c'est même un livre de confirmation, que c'est un vrai écrivain, au sens noble, on va dire, puisqu'il a un monde et à la fois une écriture. Et ce monde de Diadie Dembélé, c'est effectivement cette expérience de la migration qui était déjà présent dans le premier roman et que je trouve là où il est très intéressant, c'est qu'il voit cette migration à travers un œil dialectique, c'est-à-dire qu'il le voit depuis le point de départ qui est le village et depuis le point d'arrivée qui est la France, avec cet entre-deux qui est Bamako. Voilà, ça c'est quelque chose qui était déjà un peu présent dans le premier, mais qui là est vraiment au centre de la narration. Ça se cristallise dans un rapport ambigu à la langue française qui traverse à chaque fois ses livres, qui à la fois cette langue...
Alors,
peut-être que justement, on écoute un extrait avant de parler de la langue, comme ça les auditeurices pourront en avoir un aperçu s'ils n'ont pas encore ouvert le livre.
Monsieur, la manière dont vous et moi avons les mêmes traits physiques, voyons ce fait, un trait noir là où il ne faudrait pas, votre nez appuyé au centre, aussi votre menton fuyant, pourvu qu'on ne vous enlève pas votre pantalon pour vérifier l'empreinte du vieux forgeron, mais seulement la façon dont nos scarifications renseignent sur nos origines communes et cette marque que vous avez sur le front suffisent à les alerter sur votre partialité. Vous êtes de mon côté, j'en ai la certitude. Vous n'avez pas besoin de le formuler. Je l'entends dans votre silence. Cela ne sera pas un souci. Puisque vous faites l'aveugle, nous serons deux. Puisque ce qui est déjà ne pourrait qu'être. Le pays des Français ayant des lois qui nous garantissent des droits, vous pour moi, comme témoin de ma langue et de mon histoire, moi pour vous, client parmi d'autres, je vous raconterai tout dans les moindres détails. Je couche un seul avertissement par terre. Ne pas m'interrompre lorsque je suis sur le point de toucher à un os de la parole. Cette partie dure, voyez-vous, qui jaillit de chaque parole, dite avec sérieux et rigueur, et qui disparaît dès que l'on moque la tonalité ou l'accent de celui qui l'a prononcée. Ne me voyez pas dans cette connerie biscornue pour juger de ma valeur. Sautez sur mes mots. Penchez-vous, si ça vous menace la tête ou heurte votre épaule, mais ne vous avisez pas de m'interrompre.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait d'une langue dont on va discuter, mais dont il faut bien dire qu'elle n'est pas homogène hein, tout au long du livre, il me semble, même si il y en a des formules, des styles et des structures. Blandine.
Alors, j'ai quelque chose à dire sur la langue, mais pourquoi j'ai choisi cet extrait précisément? Il fait partie du deuxième chapitre, c'est au tout début, et c'est à partir de là où j'ai saisi, moi, l'ironie légère de Diadie Dembélé, qui est à la fois une manière d'orgueil et d'humilité. Et en fait, en saisissant ça, j'ai repensé à ce que disait Mohamed Mbougarsar dans un podcast légitime de la journaliste Nesrine Slaoui. Et il disait que l'ironie en littérature, voire l'humour, peuvent être des alternatives à la colère pour signaler les traitements de faveur ou de défaveur, fourbes, ceux dont on n'est pas tout à fait dupe. Et en l'occurrence, le narrateur du livre, Mantia, est officiellement écouté par un avocat, on l'a dit, par un traducteur. Mais il n'est pas tout à fait dupe de l'écoute de ces gens qu'il devine potentiellement viciés, potentiellement un peu perverses, à la fois attentives et à la fois qui pourraient les déformer à tout moment. Et l'insolence, voilà, cette ironie mêlée de colère lui permet de signaler ça, signaler qu'il n'est pas tout à fait dupe. Et on l'entend un peu dans cet extrait et on l'entend vraiment jusqu'au bout du livre.
Younes, je vous ai coupé sur la langue.
Oui, bah, en tout cas, ce détour par Mohamed Mbougarsar est marrant, puisqu'il y a quand même deux clins d'œil dans le livre que j'ai relevé à ce cousin, et peut-être grand frère de Diadié Dembélé, puisque tous deux incarnent quand même une nouvelle génération d'Africains francophones. Et sur cette langue, alors effectivement, elle est frappante. Je trouve qu'elle est très inventive, elle est rythmée. Moi, dès son premier roman, justement, et je trouve que là, il va encore plus loin là-dedans, elle me fait penser un peu à Amadou Kourouma, donc ce grand écrivain ivoirien qui est décédé en 2002, qui est quand même un des père aussi de toute cette littérature. Et c'est une langue qui est intéressante parce qu'elle mélange l'ironie, l'envolée parfois. Il y a une gravité, mais qui est en même temps souriante. Donc il y a beaucoup de dimensions, je trouve, qui sont intriquées. Et on voit aussi que Diadié Dembélé est poète, puisque son tout premier livre, c'était Les Tresses Royales en 2019, et qui était un recueil poétique. Et je trouve que voilà, il y a vraiment une forme d'imbrication de ces différentes formes.
Oui, c'est, qui se vraiment des styles, des néologismes. On a plein, notamment, de collusions de mots. Hein. Le père va saute bondi sur son fils. On a beaucoup de créations
dans la syntaxe.
Enfin,
c'est pas seulement le lexique, quoi. C'est, ouais. Ou des adverbes, des proverbes. Il y a toute une série de tournures. Moi aussi, j'étais très sensible à la façon dont ça animait le propos. D'ailleurs, à ce propos, on peut se dire que les trois livres dont on va parler aujourd'hui sont travaillés par cette question de la revivification de la langue par la rencontre avec d'autres langues, puisque les deux autres romans dont on va parler font aussi parler des personnages qui mélangent toutes sortes de langues et du même coup font entendre un autre français. Et il y a une joie profonde de cette réanimation du français, ça enchante tout. Alors, pour moi, c'est vraiment, enfin, à la lecture, c'est vraiment une joie. Peut-être qu'il y a un endroit où c'est aussi une limite. C'est-à-dire que c'est un peu dur à dire, mais évidemment, il y a un moment où aussi cette douceur, ce lyrisme vient au service d'une histoire qui est quand même terrible. Et il y a un moment où on se demande si on voudrait aussi entendre la colère brute, quoi.
Moi j'ai eu l'impression que la langue française pour Diadié Dembélé était comme une arme et un piège à la fois.
Ouais.
Il y a une phrase qui il dit quoi qu'il en soit, donc dans le livre, quoi qu'il en soit, dit le narrateur, je resterai ce milliardaire en mots incapable de faire des phrases correctes. Et on sent en fait que c'est la raison pour laquelle il écrit, parce que cette langue française qui est la langue du colonisateur est en même temps une langue qu'il aime profondément, avec laquelle il veut écrire, et que c'est très tendu. Il cherche un lieu où concilier ses contradictions. En même temps, formulations qui font état de ces contradictions deviennent si lyriques, si enchevêtrées, si je ne sais pas comment les qualifier exactement, mais si compliquées en fait, parfois, qu'elles lestent un petit peu le texte. Et en fait, ça m'a fait penser à un essai de Kaoutar Archi qui était paru aux éditions Pauvert il y a quelques années, qui s'appelait « Je parle une langue, mais ce n'est pas la mienne ». Là où la langue peut devenir vraiment le lieu d'une lutte interne, mais dont on ne peut pas tout à fait sortir. Et j'ai entendu un podcast de Diadié Dembélé sur le duel des grands-mères, où il disait que finalement, il était en train de reproduire ce pourquoi inconsciemment il écrit. C'est-à-dire pour s'émanciper d'une langue. Il écrit pour ça, pour s'émanciper d'une langue et d'une manière de voir le monde et de le penser, qui est la manière de voir et de penser le monde du colonisateur au départ, pour s'en émanciper. Et en même temps, il utilise précisément cette langue et donc elle l'écrase en même temps qu'elle le révèle.
Il en est conscient, mais effectivement, il ne s'en tire pas forcément complètement à chaque fois. Moi, j'ai trouvé que notamment sur la fin, quand il inscrit vraiment l'histoire de son personnage dans une histoire collective emblématique, qui est celle des sans-papiers de Saint-Bernard, au moment où on est vraiment sur une histoire qu'on connaît, peut-être que justement, il se fait davantage piéger par la langue qu'il en fait une arme d'émancipation. Mais Younes n'est pas tout à fait d'accord.
Non, parce que déjà, je pense que c'est un peu la contradiction dans laquelle et la tension dans laquelle sont prises tous les écrivains africains francophones. Moi, Madame Mbougarsar, La plus secrète mémoire des hommes, portait précisément aussi sur l'exploration de cette tension. Et là où je suis en désaccord sur deux points, le premier, c'est que je pense que cette distance un peu ironique, elle est aussi un geste qui est propre aussi à cette tradition. Encore une fois, pour parler d'Amadou Kourouma, dans « Allah n'est pas obligé », c'est l'histoire d'un enfant soldat, et on retrouve un peu aussi cette distance-là. Et par ailleurs, je trouve qu'elle n'est pas toujours, l'ironie ou cette espèce de sourire n'est pas toujours là. Et moi, en particulier, je pense qu'il faut mentionner la toute fin, les deux dernières pages, qui sont quand même une espèce de cri un peu universel sur la condition des migrants et sur finalement ces deux émigrés qui sont un peu insulté et pas accueilli en France. Et je trouve que là, il y a une sorte de point de fusion dans sa langue qui est, je trouve, assez touchant. Enfin, moi, ces derniers temps, j'ai assez peu lu de pages qui m'ont à ce point-là touché.
Deux grands hommes ennemis dont je vous laisserai découvrir la signification. C'est signé Didier Dembélé et c'est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
L'esprit critique. Mediapart.